Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous continuons notre série et ce matin, nous allons lire les versets 17 à 19. Jude, les versets 17, et voici la parole de Dieu. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et c'est la parole de Dieu. On a tous, à un moment ou à un autre, oublié quelque chose. Sur un plan personnel, il m'arrive de passer du bureau au salon et de ne plus me souvenir pourquoi j'avais décidé d'aller au salon. Ou parfois, de ne plus me rappeler non plus quel était le commentaire que je voulais consulter. Parfois, ce sont nos clés que l'on cherche, on ne sait plus où on les a mises ou dans quelle veste elles se trouvent. Parfois, c'est en faisant nos courses, on réalise qu'on a oublié de marquer quelque chose sur la liste et on ne s'en rappelle plus. Et ça, c'est si on n'a pas oublié la liste des courses elles-mêmes. Du point de vue pratique, se souvenir des choses peut avoir un impact positif dans la vie quotidienne, ça enlève la frustration de devoir faire demi-tour pour chercher la carte bleue qu'on a oubliée en allant faire les courses. Ou bien ça évite cet instant gênant de ne plus se rappeler le nom d'une personne alors qu'elle vient de se présenter il y a simplement quelques secondes. La notion biblique de se souvenir a un sens et une importance beaucoup plus profond. Et dans ces trois versets, Jude appelle les croyants à se souvenir de quelque chose. Et ce quelque chose est de la plus haute importance, avec des implications spirituelles pour la santé, à la fois personnelle, mais aussi la santé de l'Église. Et ce matin, nous allons voir trois éléments de cet appel de Jude à se souvenir. J'ai essayé de trouver un moyen facile de se rappeler. Il y a le commandement, le contexte et le contraste. Le commandement, le contexte et le contraste. Premièrement, le commandement. On a vu que Jude vient de passer du temps à décrire les faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'Église. Et il a pris tout ce passage du verset 5 au verset 16 pour le faire. Et maintenant, il se tourne vers les vrais croyants pour les exhorter. Rappelez-vous, au début de sa lettre, Jude avait expliqué quel était le but de sa lettre au départ. « Bien-aimé, verset 3, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Et ensuite au verset 4, il a donné la raison de son exhortation à combattre pour la foi, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes s'étaient infiltrées et dans l'Église et avaient commencé à avoir une certaine influence, en particulier en ce qui concerne un mode de vie immoral. Mais cela se voyait aussi dans leur enseignement. Et ces personnes justifiaient une telle immoralité derrière un langage de grâce, comme le dit Jude. Ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Et Jude a ensuite passé les 12 versets suivants que l'on vient d'étudier pour développer ce qu'il a dit au verset 4, pour expliquer pour la nature de ces intrus et de leur enseignement. Et maintenant, après avoir longuement développé au sujet de ceux qui s'étaient infiltrés dans l'Église, Jude se tourne vers les croyants. Il va leur parler de ce que signifie combattre pour la foi, ce que cela implique. Et petite a, le verbe, l'impératif, souvenez-vous. On a ici au verset 17 le premier commandement, le premier verbe, un impératif dans la lettre de Jude, souvenez-vous. C'est un commandement, c'est un ordre de se souvenir, mais de se souvenir d'une connaissance qu'il possédait déjà. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ s'étaient adressés personnellement aux lecteurs de Jude, sans doute lors de l'implantation de l'église ou des églises à laquelle Jude s'adresse. Il leur avait annoncé d'avance certaines choses. Et Jude dit, il appelle ses lecteurs à se souvenir maintenant de cette connaissance que les apôtres leur avaient apportée. La situation dans laquelle se trouvaient les croyants était une situation de danger, de se trouver sous l'influence de l'immoralité de ces hérétiques. Et là, en réponse à cette situation, Jude leur présente le premier pas à faire. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que les apôtres vous ont dit. Un commentateur dit, comme un bon médecin, Jude a dit au malade, voilà ce qui ne va pas. Et maintenant, il lui dit, voici le remède que vous devez prendre. Souvenez-vous. Quand la Bible appelle le peuple de Dieu à se souvenir, cette notion, comme j'ai dit, a plus de poids que lorsque nous parlons de nous souvenir. Ce n'est pas simplement se souvenir de l'endroit où on a laissé les clés. Ce n'est pas non plus un simple exercice intellectuel comme se souvenir de tous les présidents de la Ve République dans leur ordre chronologique ou de se souvenir des tables de multiplication. Ce n'est pas simplement un simple rappel de données. Il est question ici d'un impératif moral, d'une exigence morale. Se souvenir, dit un commentateur, se souvenir dans la Bible inclut la volonté, pas seulement l'intellect. En se souvenant de ce que Dieu a fait ou dit dans le passé, nous devons le prendre à cœur d'une manière qui affecte notre pensée et notre comportement. C'est une exhortation morale que nous donne Jude, un appel à être actif, volontaire, en ce qui concerne la question de se souvenir. Petit b, l'autorité derrière ce commandement, c'est que ce commandement vient avec l'autorité de Dieu. Jude écrit « Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ». Un apôtre était quelqu'un qui était envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, qui annonçait le message du Seigneur Jésus-Christ en son nom. Et quand il proclamait ce message, le message venait avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le commentateur explique que les apôtres n'étaient pas des agents indépendants, mais ils parlaient et accomplissaient une mission avec l'autorité et sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ces paroles concernant les choses annoncées d'avance par les apôtres avaient la même autorité que si le Seigneur Jésus-Christ qui avait envoyé ces apôtres les avait prononcées. Et pour les lecteurs de Jude, les lecteurs du premier siècle, il s'agit sans doute d'un message qu'ils ont entendu de la part des apôtres. Ce message est venu avec autorité et donc venu avec un impact permanent et une puissance continue. En fait, l'expression « les choses annoncées d'avance » décrit des paroles qui ont été dites, mais qui ont un impact qui ne s'arrête pas. Tournons dans la phrase de l'original, explique cela. D'ailleurs, même au début du verset 18, Jude dit « il vous disait, il ne cessait de vous dire, il ne cessait de vous répéter ». Leurs paroles sont permanentes. Et ils ont une puissance continue. Et Jude dit, souvenez-vous de ces choses. Pour les lecteurs de Jude qui faisaient face au danger de ce faux enseignement immoral et de son influence, l'antidote à l'impiété, c'est d'être ancré dans l'enseignement des apôtres. L'antidote à l'impiété, à l'erreur, c'est d'être ancré dans l'enseignement des apôtres. C'est intéressant de noter que la première exhortation de Jude, le premier commandement qu'il donne, c'est de prêter attention à la parole du Seigneur Jésus-Christ au travers de ses apôtres. Ce que les lecteurs de Jude ont besoin avant tout pour faire face à leur contexte, à leurs circonstances, c'est la parole de Dieu transmise par les apôtres envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Le commentateur explique, ils doivent voir le monde qui les entoure à travers les lunettes des vérités que Dieu leur a révélées dans sa parole, en prêtant attention aux avertissements de la Bible, ce qui atténue le choc que l'on a en voyant beaucoup de ce qui se passe non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église, et nous aide à croire que Dieu est toujours en contrôle. L'application et la signification pour nous, dans l'Église, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde que nous connaissons, c'est de, encore nous aussi, prêter attention, de nous souvenir de ce que Dieu dit dans la parole. Nous avons le canon entier des Écritures. Nous avons toute la révélation de la parole de Dieu. Les lecteurs de Jude au 1er siècle avaient l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Nous avons le canon entier de l'Écriture inspirée par Dieu. Cette parole qui nous a donnée par grâce, cette révélation qui nous a donnée par grâce pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous encourager dans ce monde mauvais que nous traversons. De quoi avons-nous besoin pour faire face aux dangers venant de l'extérieur du monde et venant de l'intérieur même de l'Église? Nous avons besoin d'être ancrés sur la parole de Dieu. Jude nous commande donc d'être engagés de manière active, de nous nourrir, de grandir dans la connaissance des Saintes Écritures. Si nous oublions la parole de Dieu, nous donnons l'occasion à l'ennemi de commencer à faire des ravages dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église. Si nous oublions, par exemple, la promesse du Seigneur Jésus-Christ d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on pourrait être tenté de croire que lorsqu'on traverse des difficultés, le Seigneur nous a abandonnés. Alors que non, il n'abandonne jamais ses enfants. Et Jude nous dit, souvenez-vous de ces choses. C'est le commandement de Jude, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il donné ce commandement? Deuxième grand point, le contexte de ce commandement. Quel était le message, quel était le contenu du message apostolique qui pousse Jude à insister que ses lecteurs se souviennent de ce message annoncé par les apôtres? Verset 18, il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Qu'est-ce que Jude veut dire par cette expression « dans les derniers temps » C'est le petit « a », les derniers temps. L'Ancien Testament utilise cette expression pour anticiper tout ce qui était impliqué dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on arrive au Nouveau Testament, on voit plus clairement que tout ce qui avait été anticipé dans l'Ancien Testament, dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, allait se dérouler entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. La première venue du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, implique sa naissance, son ministère sur terre, sa mort, sa résurrection, son ascension dans la gloire. La deuxième venue, son retour dans la gloire pour chercher son peuple et juger le monde. Et les deux font partie de cette anticipation de l'Ancien Testament. Et donc cette expression « les derniers temps », parfois traduite par « les derniers jours », décrit toute cette période entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. La venue du Seigneur Jésus-Christ a inauguré l'étape finale dans l'histoire de l'humanité. Et cette étape va continuer jusqu'au retour de Christ. Et donc, ce que Jude est en train de dire, c'est que, d'après le message des apôtres, la présence de ces enseignants immoraux dans l'Église est une caractéristique de cette époque dans laquelle les lecteurs de Jude vivaient, mais dans laquelle nous vivons aussi, les derniers jours. On oublie cette réalité, ce sera moralement périlleux. Ceci n'était pas une nouvelle prédiction dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, en Acte 20, par exemple, lorsque l'apôtre Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il dit ceci, Acte 20, versets 28 à 30. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » L'apôtre Paul appelle ces hommes, ces faux enseignants, des loups cruels. Jude les appelle des moqueurs. C'est le petit B, l'annonce des moqueurs. La notion biblique d'un moqueur, c'est quelqu'un qui méprise l'idée même de la sainteté ou de la poursuite de la sainteté. C'est un homme, dit un commentateur, qui méprise la morale et la foi, un libertin arrogant et impie. Mais Jude met l'accent plutôt sur le comportement que sur le langage du moqueur. Il décrit des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ces personnes ont une attitude méprisante envers ceux qui sont sérieux dans la poursuite de la sainteté. Et le mode de vie de ces personnes démontre ce mépris. Un commentateur écrit, « Ils se trahissent eux-mêmes, non pas tant par ce qu'ils disent et certainement pas par ce qu'ils pensent, mais par ce qu'ils font. » À notre époque, nous ferions bien de nous rappeler que ceux qui revendiquent l'engagement envers le Seigneur Jésus-Christ doivent vivre comme Christ a vécu. Jude a déjà détaillé dans les versets 5 à 16 la nature et le caractère de ces intrus et le jugement certain qui va venir. Ce qu'il souligne ici, c'est la prédiction de leur présence dans l'Église. Leur présence a été annoncée d'avance. Les apôtres n'ont cessé d'avertir d'avance les lecteurs de Jude. Non pas que cela était une possibilité, mais que l'apostasie allait être une réalité dans l'Église, impliquant l'abandon de la foi par certains, la présence de l'immoralité, et que cela arrivera même dans des postes d'influence. Le message et la vie de ces apostats témoignent d'une impiété à l'égard de l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce que les apôtres avaient donné aux lecteurs de Jude au premier siècle, c'était un avertissement du danger. Le point que Jude souligne, l'appel qu'il lance, c'est qu'il n'y a pas de raison pour le découragement, étant donné que les apôtres eux-mêmes ont donné une prédiction claire de ces développements alarmants. Et Jude dit que ce souvenir de cette prédiction des apôtres nous permet de faire face à la réalité, à la situation difficile. C'est comme des panneaux que l'on peut voir sur le bord de la route qui nous indiquent, par exemple, dernière station d'essence avant l'autoroute, si on veut éviter de payer le prix fort, déjà qu'il est assez élevé, si on veut éviter de payer le prix encore plus fort, on fait bien de prêter attention à ces panneaux et de faire le plein avant d'aller sur l'autoroute. Ou inversement, si on est sur une partie gratuite de l'autoroute et qu'on voit dernière sortie avant le péage, si on ne veut pas payer le péage, il vaut mieux respecter, tenir compte de ce qui est annoncé d'avance et sortir à la dernière sortie Et Jude est en train de dire, souvenez-vous, les apôtres vous ont dit, vous ont annoncé ces choses. Et ça va se passer ainsi. C'est comme un enfant qui quitte la maison pour la première fois, qui va faire face à des situations qu'il n'a jamais connues personnellement, mais il sait qu'elles existent parce que ses parents l'ont averti. Ils lui ont dit, ils lui ont annoncé ces choses. Et même si, sur le plan humain, un parent ne peut pas préparer parfaitement son enfant pour tout ce qu'il va affronter dans le monde, en ce qui nous concerne, Dieu nous a donné toute la vérité. Toute la vérité dont nous avons besoin dans l'Église, pour le croyant, pour une vie de piété dans ce monde. Il nous a tout donné, toute sa révélation dans sa parole. Et en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à travers ses apôtres, qui leur a dit ces choses. Et le résultat recherché pour leur avoir annoncé ces choses d'avance, c'est de les réconforter. C'est de les réconforter. Le capitaine du bateau est toujours à la barre, même s'il y a ces faux enseignants. Oui, je sais qu'il y a des loups parmi les brebis, mais je vous ai annoncé que cela allait arriver. Même au milieu de la tempête, le capitaine est toujours à la barre. Les pirates n'ont pas pris le contrôle du navire. Le commentateur Matthew Henry écrit ceci. Nous ne devons pas penser que tout cela est étrange, mais nous devons nous consoler avec ceci. Au milieu de toute cette confusion, Christ maintiendra son Église et tiendra sa promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Troisième petit point, l'implication de cette annonce, c'est être prêt, parce que nous avons eu cette connaissance d'avance. Les apôtres ont annoncé ces choses d'avance. Quand on sait qu'un ennemi s'approche des portes de la ville, on ne peut faire autre chose que d'être vigilant, de prendre les dispositions, de commencer à agir. Mais d'un autre côté, on ne veut pas être ceux qui se méfient tout le temps de tout le monde. On ne veut pas être connus comme ceux qui soupçonnent le faux enseignement et l'immoralité chez tous ceux qui nous entourent. Mais par contre, cet avertissement, cette prédiction des apôtres nous enseigne qu'on ne devrait pas être pris au dépourvu. On ne devrait pas être surpris par la présence de faux enseignants dans l'Église quand ils se manifestent. Mais le fait d'avoir été préparé par la prédiction certaine de la parole des apôtres, c'est un rappel, encore une fois, que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il est sur son trône. Il prend soin de son Église. Il l'avertit des dangers auxquels elle devra faire face. Dieu ne va pas arrêter de prendre soin de son peuple. Il va le conduire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il la prenne avec lui dans la gloire. La conséquence, petit dé, de la présence de ces moqueurs, c'est que ces moqueurs provoquent des divisions dans l'Église. Au début du verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Et le temps du verbe indique que les divisions continuent, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui sera toujours présent dans l'Église. Un commentateur décrit la scène de cette façon, il dit « Ces hommes sont au centre des désaccords et du mécontentement. Certains chrétiens prennent leur défense, d'autres n'auront rien à faire avec eux. Certains avalent leur message alternatif avec enthousiasme, et participent à des week-ends d'études spéciales avec eux. D'autres sont confus parce que le genre de vie chrétienne qu'ils ont toujours vécu a été critiqué comme étant une vie chrétienne de seconde classe. Certains chrétiens vont prendre la défense de ces faux enseignants en disant que ce sont des gens bien, ils parlent de la grâce, que ce sont des personnes incomprises. Ils vont former des allégeances autour d'un faux concept de l'Évangile. Et ceux qui recherchent à vivre dans la pureté par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, et s'ils réprimandent un tel faux enseignant, cette réprimande est catégorisée comme étant de la méchanceté, comme étant de l'impiété. Jude va conclure cette description en décrivant une dernière fois ces faux enseignants. Il les appelle des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, c'est le petit eux. Ces hommes, ces moqueurs sont des hommes du monde. Ils ne sont focalisés que sur les choses du monde, que sur la vie sur terre. Ils n'ont aucun véritable intérêt pour les choses spirituelles. Ils ne vivent que la vie selon la chair. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, parle d'une sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique. Jacques 3, verset 15. L'autre face de cette vérité d'une vie matérialiste, ou plus exactement la raison pour une telle vie matérialiste, c'est parce que ces personnes n'ont pas l'esprit. L'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Et en fait, cela résume la raison pour laquelle ces personnes causent des divisions dans l'Église et pourquoi Jude a passé du temps à développer, expliquer la nature et le caractère de ces personnes. Un commentateur explique l'accusation de Jude est que ces hérétiques ne sont rien d'autre que des gens du monde qui ne sont pas gouvernés par l'Esprit Saint. Ils sont entièrement naturels et appartiennent uniquement à ce monde en tant que gens du monde. En d'autres termes, ce ne sont pas des disciples de Christ, simplement des personnes non régénérées. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'expression d'une liberté revient à la licence, à ce qui est mauvais, à ce qui est pécheur, on peut être sûr qu'il ne s'agit pas de la liberté chrétienne. Le Saint-Esprit et n'importe quel mode de vie immoral sont complètement incompatibles. Charles Spurgeon, dans une prédication sur ce passage, dit ceci. Le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur, vient comme l'eau, c'est-à-dire il vient pour purifier l'âme. Celui qui est aujourd'hui aussi infâme qu'il l'était avant sa prétendue conversion est un hypocrite et un menteur. Celui qui aujourd'hui aime le péché et vit dans le péché comme il avait l'habitude de le faire, qu'il sache que la vérité n'est pas en lui, mais il a reçu la forte illusion de croire un mensonge. Le peuple de Dieu est un peuple saint. L'Esprit de Dieu agit par amour et purifie l'homme. Une fois qu'il est entré dans nos cœurs, il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il aura chassé chaque péché. Le Saint-Esprit de Dieu et le péché de l'homme ne peuvent vivre ensemble pacifiquement. Ils peuvent tous les deux être dans le même cœur, mais ils ne peuvent pas tous les deux y régner, ni être tranquilles, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair, selon Galates 5, 17. Ils ne peuvent se reposer, mais il y aura une guerre perpétuelle dans l'âme, de sorte que le chrétien devra crier « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais en temps voulu, l'Esprit chassera tout péché et nous présentera sans reproche devant le trône de sa majesté, avec une joie extrême. C'était Charles Spurgeon. Et cela nous amène au troisième grand point. On a vu le commandement, le contexte, troisième grand point, le contraste. Jude vient de décrire ces hommes, ces faux enseignants, comme des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et le contraste vient quand on se rappelle encore une fois à qui Jude s'adresse. Jude souligne ce contraste au début de notre passage, au verset 17, quand il passe de ces intrus, eux, ces faux enseignants, à vous, mes bien-aimés. Toute la description de ces dangereux faux enseignants, de leur mode de vie, de leur message, tout cela a été fait pour le bien de ses frères, pour le bien de ses sœurs bien-aimées, pour souligner le contraste avec eux. Depuis le verset 4, Jude n'a cessé de parler au sujet de ces faux enseignants en les décrivant, mais il a aussi parlé à ses lecteurs bien-aimés, comme il le rappelle au début du verset 17. En concluant cette description de ces intrus, de ces moqueurs marchant selon leurs convoitises impies, qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, le contraste frappant que nous avons alors, c'est que ces croyants à qui Jude s'adresse sont ceux qui ont réellement l'Esprit de Dieu. Au tout début de cette lettre, Jude nous dit qu'il s'adresse, verset 1, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Et Jude introduit ici maintenant le rôle de l'Esprit Saint comme étant une réalité pour eux. Au début, on a parlé de la réalité des derniers temps, cette période qui a été inaugurée par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Tout ce qu'il a accompli a des implications énormes sur notre façon de voir les choses, notre façon de vivre notre vie dans l'Église. Et un élément dans l'œuvre de rédemption a été l'envoi du Saint-Esprit pour appliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans le salut. Le Seigneur Jésus, dans sa venue, a accompli notre salut, notre rédemption. Et le Saint-Esprit a été envoyé à la suite de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ pour appliquer cette rédemption dans nos vies, en nous unissant à Christ par la foi, en nous donnant cette nouvelle naissance, en nous faisant entrer dans la famille de Dieu pour faire partie de cette nouvelle création, en venant habiter en nous donnant la puissance de vivre cette vie nouvelle. Il y a une autre façon de décrire cette réalité. Dans la vie chrétienne, il y a une dynamique de « déjà, pas encore ». Parce que Christ est venu, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est monté aux cieux, parce qu'il a donné son Saint-Esprit dans nos cœurs, dans l'Église, parce qu'il intercède pour nous constamment, parce que tout cela s'est passé. Toute cette œuvre s'est passée lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà vraies pour le croyant. Mais de l'autre côté, parce que Christ n'est pas encore revenu dans la gloire, il y a des choses qui ne sont pas encore vraies pour le croyant et pour l'Église. Et quelque chose qui n'est pas encore vrai pour le croyant, c'est la disparition totale du péché dans nos vies. Ces désirs pécheurs qui résultent de la présence de la chair encore en nous. Mais même s'il y a déjà la réalité de la justification, que nous sommes déclarés, considérés justes, considérés comme étant purs devant Dieu, par la foi en Christ, ça c'est la réalité. Il n'y a pas encore l'absence de péché. C'est pour ça qu'il y a ce combat en Romains 7. Et c'est pour cela qu'il faut se souvenir de la réalité de tout ce qui est vrai avec la première venue de Christ. Tout ce que les apôtres ont enseigné. L'envoi de l'Esprit-Saint pour réveiller, pour habiter le croyant, pour aider le croyant à vivre la vie de la nouvelle création. Cela fait partie de tout ce qui est déjà vrai pour le croyant en Christ. Un commentateur dit, combien de chrétiens comprennent que l'Esprit-Saint actuellement à l'œuvre en eux n'est rien de moins que la puissance de résurrection, que l'Esprit par lequel Dieu donne la vie à nos corps mortels est son Esprit qui demeure en nous. Combien de gens apprécient que Jésus-Christ lui-même, par son Esprit, est présent et à l'œuvre dans nos vies, dans la puissance de résurrection. L'Esprit-Saint a créé en nous une nouvelle attitude à l'égard du péché. Nous nous lamentons sur nos péchés. Nous avons une haine grandissante envers le péché. Mais il ne nous conduit pas seulement à pleurer sur nos péchés, mais à vouloir nous détourner de notre péché, parce que nous savons où se trouve le pardon. Nous savons, comme le dit le psalmiste dans le psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » L'Esprit Saint crée chez le croyant un désir grandissant pour une vie sainte, une vie de piété, et en même temps une prise de conscience croissante de l'absence de sainteté dans nos vies. Comme le dit ce titre du livre d'Europresse, « Je veux être saint, mais... » L'Esprit Saint crée chez le croyant un nouveau désir pour grandir dans la grâce, dans la pureté, pour grandir dans un amour de la parole de Dieu et de ses exhortations. Il nous apprend, l'Esprit, à nous apprend à nous détourner de plus en plus du péché pour nous tourner de plus en plus vers la justice en Jésus-Christ. Il crée en nous le désir de vouloir nous détourner du péché. Ce n'est pas un devoir qui nous est imposé sur nous, ce n'est pas une loi qui nous est imposée sur nous. Non, c'est l'Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. L'enseignement du Nouveau Testament au sujet de la vie chrétienne, ce n'est pas « sois meilleur, fais mieux » et ressens de la culpabilité quand tu n'y arrives pas. Non, ça, ce n'est pas l'enseignement du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous dit « si vous êtes en Christ, l'Esprit de Dieu est en vous. » Cela fait partie de la nouvelle création que Christ a inaugurée dans sa venue. Et les opposants de Jude ne connaissaient rien de tout cela. Et Jude veut que ses lecteurs se souviennent de cette différence. Ce n'est pas simplement un contraste d'un comportement, dans le comportement ou sur un plan doctrinal. Non, c'est le contraste entre la vie de la chair de ces hérétiques et la puissance du monde à venir qui habite dans le cœur des lecteurs bien-aimés. Par ce contraste, Jude ne dit pas que les croyants ont tout saisi. Comme on l'a dit, le croyant, avec l'esprit qui habite en lui, connaît de plus en plus de choses. Il connaît ce constant besoin d'avoir encore plus de l'Esprit de Dieu et de sa puissance de transformation. Comme on parlait tout à l'heure d'arbres fruitiers, on sait que pour un arbre fruitier, il faut du temps pour que le fruit soit mûr. Et de même pour ce précieux fruit de l'Esprit, il faut du temps pour qu'il se développe, qu'il devienne mûr dans la vie chrétienne, du chrétien dans lequel habite l'Esprit de Dieu. Parce qu'avoir l'Esprit de Dieu veut dire que nous nous trouvons sur cette ligne de temps. L'Esprit est venu habiter en nous. Il nous a unis à Christ, il habite en nous et il va produire du fruit. Ce n'est pas une question de si, mais une question de quand et de combien. Peut-être que nous ne voyons que le bourgeon de la patience qui se forme. Peut-être que nous voyons un fruit plus développé du contrôle de soi. Mais nous grandissons et nous allons grandir si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire si nous sommes à Christ. C'est la présence de l'Esprit Saint dans le cœur qui pousse le croyant à reconnaître ce conflit interne que l'apôtre Paul décrit merveilleusement bien dans la lettre aux Romains chapitre 7 à partir du verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là, il continue. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand on continue dans le chapitre 8 de Romains, il parle de cette position merveilleuse. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. L'Esprit de Dieu nous rend conscients de notre besoin. Nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être meilleurs que ce que nous sommes. Mais nous ne devons pas non plus nous satisfaire de l'état dans lequel nous sommes. Nous avons encore besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu, de compter sur lui. Nous avons besoin, toujours plus besoin, de sa présence, de sa puissance pour nous faire grandir dans notre communion fraternelle. Plus pour de sa puissance, de sa présence, pour plus de sainteté dans l'Église, dans notre vie personnelle. De sa présence pour une vigilance contre ceux qui voudraient nous séduire, nous égarer. Et de sa présence pour nous aider à nous souvenir de la parole de Dieu, de ses exhortations, afin que nous restions fidèles aux Écritures que l'Esprit lui-même a inspirées. Que Dieu nous aide à marcher selon son Esprit Saint dans notre Église, dans nos vies personnelles, et ce jusqu'à notre dernier souffle. Qu'il nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.